Les derniers jours de Pompéi, livre 4, chapitre 1er, réflexion sur le zèle des premiers chrétiens. Deux hommes prennent une périlleuse résolution, les murs ont des oreilles, surtout les murs sacrés. Quiconque examine l'histoire primitive du christianisme reconnaîtra combien était nécessaire à son triomphe ce zèle fougueux qui, sans craindre aucun danger, sans faire aucune concession, inspirait ses champions et soutenait ses martyrs. Dans une religion dominante, l'esprit d'intolérance trahit sa cause. Dans une église faible et persécutée, le même esprit la soutient. Il fallait mépriser, détester, abhorrer les croyances des autres hommes pour surmonter les tentations qu'elles présentaient. Il fallait non seulement croire que l'Évangile était la véritable foi, mais qu'elle était l'unique foi qui sauva afin de plier le disciple à l'austérité de sa doctrine et de l'encourager dans la chevaleresque et périlleuse entreprise de convertir les polythéistes et les païens. Cette rigueur du sectaire qui n'accordait la vertu et le ciel qu'à un petit nombre d'élus, qui voyait des démons dans les autres dieux et le châtiment de l'enfer dans une autre religion, inspirait à tout fidèle un ardent désir de convertir chacun de ceux auxquels il était attaché par les nœuds de l'affection humaine. Et le cercle ainsi tracé par la bienveillance pour l'homme était encore élargi par l'envie de contribuer à la gloire de Dieu. C'était pour l'honneur de la foi chrétienne que le chrétien exposait hardiment ses dogmes au scepticisme des uns, aux répugnances des autres, au mépris des philosophes, à la pieuse horreur du peuple. Sa propre intolérance devenait pour lui son premier instrument de succès, et le païen adouci finissait par penser qu'il y avait en effet quelque chose de saint dans un zèle si étranger à son expérience, qui ne s'arrêtait devant aucun obstacle, ne redoutait aucun danger, et même dans la torture et sur l'échafaud, s'en rapportait pour une dispute bien autrement sérieuse que les calmes dissertations de la philosophie spéculative, au tribunal d'un juge éternel. C'est ainsi que la même ferveur qui faisait d'un chrétien du Moyen-Âge un fanatique sans pitié, faisait du chrétien des premiers âges un héros sans peur. Parmi ces natures audacieuses, entreprenantes, intrépides, se distinguait celle de l'ardent Tolinthus. Dès qu'Apaïsides, par le sacrement du baptême, eut été reçu dans le sein de l'Église, le Nazaréen se hâta de le convaincre qu'il ne lui était plus permis de conserver l'office et le costume du prêtre d'Isis. Il ne pouvait évidemment adorer le vrai Dieu et continuer à honorer, même extérieurement, les autels idolâtres du démon. Ce ne fut pas tout. L'esprit impétueux et zélé d'Olynthus espéra se servir de la position d'Apaïsides pour faire connaître au peuple trompé les jongleries du temple d'Isis. Il pensa que le ciel lui avait envoyé cet instrument afin de dessiller les yeux de la foule et de préparer peut-être la voie à la conversion de toute la cité. Il n'hésita pas à faire appel au nouvel enthousiasme d'Apaïsides, à exciter son courage, à stimuler son ardeur. Le lendemain soir, après le baptême d'Apaïsides, ils se rencontrèrent dans le bosquet de Cybèle que nous avons déjà décrit et où ils s'étaient donné rendez-vous. La première fois que l'on viendra consulter l'oracle, dit Olynthus en doctrinant le jeune homme avec chaleur, avancez-vous jusqu'à la grille. Proclamez hautement devant le peuple la tromperie dont il est dupe. Invitez les assistants à entrer pour qu'ils puissent toucher du doigt eux-mêmes l'imposture en voyant de près le grossier mécanisme que vous m'avez dépeint. Ne craignez rien, le Dieu qui a protégé Daniel vous protégera. Nous, les membres de la communauté chrétienne, nous serons dans la foule. Nous pousserons en avant les faibles. Et dans le premier mouvement de l'indignation populaire et de la honte générale, je planterai sur les autels la branche de palmier, symbole de l'Évangile, et l'Esprit du Dieu vivant descendra sur mes lèvres. Cette suggestion ne déplut pas à Paesides, déjà excité et amené à un haut degré. Il se réjouit d'une occasion si prochaine de faire éclater sa foi aux yeux de sa nouvelle secte. Une horreur profonde du rôle qu'il avait joué jusqu'alors et un vif désir d'en tirer vengeance se joignaient encore à ses sentiments de piété. Dans cet élan qui les transportait au-delà de tous les obstacles, élan nécessaire à tout ce qui forme les desseins élevés et aventureux, ni Olynthus ni son prosélyte ne mettaient en doute le succès, sans penser que la respectueuse superstition du peuple, en présence des autels de la grande déesse de l'Égypte, refuserait probablement de croire au témoignage de son propre prêtre déposant contre elle. Apaesides consentit à ce projet avec une promptitude qui ravit Olynthus. Ils se séparèrent après être convenus qu'Olynthus en conférerait avec les principaux parmi ses frères chrétiens sur cette grande entreprise, qu'il recueillerait leurs avis et l'assurance de leur concours au jour de l'événement. Or, l'une des fêtes d'Isis tombait le surlendemain même de leur entretien. Cette fête offrait l'occasion désirée. Ils résolurent de se réunir le soir suivant au même endroit, et dans cette réunion, ils réglèrent définitivement les détails de la déclaration qui devait avoir lieu le lendemain. Il arriva que la dernière partie de cette conférence avait été tenue près du Sacellum, ou de la petite chapelle décrite dans la première partie de cet ouvrage. Et dès que les ombres du prêtre et du chrétien eurent disparu du bosquet, une figure sombre et sinistre sortit de derrière la chapelle. « J'ai eu raison de vous épier, mon confrère, » se dit l'écouteur. « Vous, prêtre d'Isis, vous ne veniez pas vous livrer à la vaine discussion avec ce mystérieux chrétien ? Hélas, combien il est regrettable que je n'ai pu entendre ce que vous avez dit. Mais j'ai compris du moins que votre intention est de révéler les mystères sacrés et que demain vous devez vous réunir encore à cette place pour décider de l'heure et du moment. Puisse Osiris aiguiser alors mes oreilles afin que je surprenne toute l'étendue de votre incroyable audace. Lorsque j'en aurai appris davantage, j'irai consulter Arbacès. Nous découvrirons vos desseins, mes amis, tout impénétrables que vous croyez être. Pour le présent, je me contente de renfermer votre complot dans mon sein. » En prononçant ces paroles, Calenus, car c'était lui, s'enveloppa dans sa robe et rentra chez lui d'un air rêveur. Chapitre 2. L'amphitryon, le cuisinier, la cuisine classique, Apaesides cherche Ionné, leur conversation. Le jour fixé par Diomède pour le banquet donné à des amis de choix était arrivé. Le gracieux Glaucus, la belle Ionée, le magistrat Pansa, l'illustre Clodius, l'immortel Fulvius, l'élégant Lépidus, l'épicurien Salluste n'étaient pas les seuls convives destinés à honorer son festin de leur présence. Il attendait également un sénateur de Rome d'une grande réputation et jouissant de beaucoup de crédit à la cour, qui était venu à Pompéi pour y rétablir sa santé. De plus, un fameux capitaine d'Herculanum, qui avait combattu avec Titus contre les Juifs et s'était prodigieusement enrichi à la guerre, bien que ses amis prétendissent que sa patrie lui devait encore de la reconnaissance pour ses services désintéressés. La compagnie s'étendait à un plus grand nombre d'invités que ceux dont nous venons de parler. À cette époque, il n'était pas de bon goût chez les Romains, comme on le sait, d'avoir à sa table moins de 3 ou plus de 9 personnes. Mais on dérogeait quelquefois cette règle par ostentation. L'histoire nous apprend que quelques riches amphitryons traitaient 300 personnes de leur connaissance. Cependant, Diomède, plus modeste, s'était borné à doubler le nombre des muses. Il devait avoir à sa table 18 convives, nombre qui n'est pas extraordinaire de nos jours dans un monde distingué. C'était le matin du banquet de Diomède. Et l'amphitryon lui-même, tout en se donnant des airs d'élégance littéraire et de somptuosité, conservait assez de son expérience commerciale pour savoir que l'œil du maître rend le serviteur plus actif. En conséquence, laissant flotter sa tunique sur sa majestueuse poitrine, les pieds enveloppés dans de larges pantoufles, une petite baguette à la main, dirigeant tantôt avec elle les pas de ses esclaves et tantôt leur appliquant sur le dos une légère correction, il allait de chambre en chambre dans sa vaste maison de plaisance. Il ne dédaigna pas de visiter cette pièce sacrée dans laquelle les prêtres du festin préparaient leurs offrandes. En entrant dans la cuisine, ses oreilles furent agréablement séduites par le bruit des plats et des casseroles, des jurons, des ordres donnés. Quelque petite que cette pièce indispensable paraisse avoir été dans les maisons de Pompéi, elle était néanmoins garnie de cette innombrable variété de fourneaux, de casseroles, de découpoirs, de moules, sans lesquels un cuisinier de génie, ancien ou moderne, déclare qu'il lui est impossible d'agir et de préparer le moindre mets. Comme le combustible était alors aussi rare et aussi cher dans ce pays qu'il l'est encore de nos jours, l'habileté consistait à opérer en grand avec le plus petit feu possible. On peut voir dans le musée napolitain une admirable invention de cette espèce, une cuisine portative de la grandeur à peu près d'un volume in-folio, contenant des fourneaux pour les plats et un appareil pour chauffer de l'eau ou d'autres boissons. Dans cette cuisine s'agitaient plusieurs personnes qu'au premier coup d'œil le maître de la maison ne reconnut pas. « Oh, oh, oh » murmura-t-il, « ce maudit Quadrio a appelé à son aide toute une légion de cuisiniers. Ils ne feront pas leur besogne pour rien et ce sera un item à ajouter aux dépenses de ce jour. Par Bacchus, je me considérerai encore comme trois fois heureux si ces gaillards-là ne jugent pas à propos d'emporter quelques pièces de ma vaisselle. Leurs mains sont si subtiles et leurs tuniques si larges. Même miserum !» Les cuisiniers continuèrent à s'occuper, sans paraître prendre garde à la présence d'Idiomède. « Oh, Eclio, votre poêle à frire les œufs! Quoi, est-ce la plus grande de votre cuisine? C'est tout au plus si elle peut contenir 33 œufs. Dans les maisons où j'ai l'habitude de servir, les plus petites contiennent au moins besoin 50 œufs. » « Le misérable drôle, » pensa Diomède. « Il en parle comme si une centaine d'œufs ne coûtait qu'un sesterce. » « Par Mercure !» s'écria un jeune apprenti cuisinier qui commençait son noviciat. « Où a-t-on jamais vu des moules à confiture d'une forme aussi antique ? Il est impossible de briller dans son art avec des instruments si grossiers. Quoi, les moules les plus communs de la maison de Sallustre représentent toute la guerre de Troie, Hector, Paris, Hélène, avec le petit Astyanax et le cheval de bois par-dessus le marché. « Silence, imbécile !» répondit Congrio, le cuisinier du logis, qui semblait traîtreusement abandonner à ses alliés le champ de bataille. « Mon maître Diomède n'est pas un de ces prodigues et cervelés qui prétendent tout avoir au dernier goût, coûte que coûte. « Tu mens, vil esclave !» s'écria Diomède en colère. « Tu me coûtes déjà assez pour avoir ruiné Lucullus lui-même. Sors de ta tanière, j'ai à te parler. » L'esclave obéit après avoir jeté un regard significatif à ses confrères. Sot en trois lettres, dit Diomède avec une figure animée par le courroux. Comment as-tu amené cette troupe de fripons chez moi? Je vois le mot voleur écrit dans chaque ligne de leur visage. Non, cependant, je vous assure, maître, que ce sont des gens du plus respectable caractère, les meilleurs cuisiniers de la ville. On a bien du mal à les avoir, si cela avait été à ma considération. « En ta considération, malheureux Quadrio, » interrompit Diomède. « Et par quel argent dérobé? Par quelle fraude sur les choses achetées au marché? Par quelle bonne viande convertie en graisse que tu viendras dans les faubourgs? Par quel compte de bronze bossué et de peau cassée Les paieras-tu pour te rendre service à toi ? Oh, le maître n'attaquait pas ma probité, puisse les dieux m'abandonner si... Ne jure pas, interrompit de nouveau Diomède, toujours furieux, car les dieux souhaiteraient de punir à parjure, et je perdrai mon cuisinier au moment d'un dîner. Mais cela suffit pour l'heure. Veille attentivement sur ces aides de malheur, et fais attention à ne pas venir me rompre la tête demain matin de vases brisés et de coupes disparues d'une manière miraculeuse, où ton dos sera plus qu'une plaie. Écoute-moi bien. Tu sais que tu m'as fait payer ces atagins de Phrygie assez cher par Hercule pour nourrir un honnête homme pendant un an. Prends garde à ce que la chair n'en soit pas brûlée d'un iota. La dernière fois, Congriot, que j'ai réuni mes amis, ta vanité s'était flattée de faire rôtir à poids une grue de mélasse, et tu sais qu'elle arriva sur la table comme une pierre de l'Etna, comme si tous les feux du Phlégréton avaient desséché son jus. Sois modeste cette fois, Congriot, modeste et prudent. La modestie est la mère des grandes actions, et en toutes circonstances, non moins que dans celle-ci, si tu n'épargnes pas la bourse de ton maître, songe au moins à sa gloire. On n'aura pas vu un tel repas à Pompéi depuis l'époque d'Hercule. Doucement, doucement, encore ton orgueil. Mais réponds, Congriot, qu'est-ce que c'est que cet homonculus pygmée qui se moque de ma vaisselle? Cet impertinent néophyte en cuisine qui ose insulter mes moules à confiture? Je voudrais pas passer pour un homme qui n'entend rien à la monnaie. Oh, c'est un usage entre cuisiniers, répondit gravement Congriot, de ravaler les ustensiles pour faire plus d'honneur à notre art. Ce moule à confiture est un beau et gracieux moule, mais à la première occasion, maître, je vous recommande d'en acheter de nouveau. Cela suffit, répliqua Diomède, qui paraissait décidé à ne jamais souffrir que son esclave achevât ses phrases. Va et reprendre tes fonctions. Brille, surpasse-toi. Qu'on envie à Diomède son cuisinier, que les esclaves de Pompéi te surnomment Congriot le Grand, allez va. Attends un peu, tu n'as pas dépensé tout l'argent que je t'ai donné pour le marché. Tout l'argent, hélas, oh, les langues de Rossignol et les tomacula de Rome et les huîtres de Bretagne et une quantité d'autres choses trop nombreuses pour vous les citer, attendent encore leur paiement. Mais n'importe, on a confiance dans l'archimagie russe du riche Diomède. Oh, prodigue en délire, quelle extravagance, mais quelle profusion! Je suis ruiné! Mais va, hâte-toi, inspecte, goûte, achève. Encore une fois, surpasse-toi, que le sénateur romain ne méprise pas le pauvre pompéien. À l'œuvre, esclave, et souviens-toi des atagins de Phrygie. Le chef rentra dans son domaine naturel, et Diomène porta ses pas majestueux dans les appartements où sa compagnie devait se réunir. Il trouva tout à son gré. Des fleurs étaient fraîches, les fontaines lançaient brillamment leurs jets d'eau, les pavés de mosaïque étaient éclatants comme des miroirs. « Où est ma fille Julia ?» demanda-t-il. « Au bain. »« Oh, oui, cela me fait souvenir qu'il est grand temps. Je dois aussi aller au bain. » Notre récit nous ramène vers Apaïsides. En se réveillant ce jour-là du sommeil fiévreux et fréquemment interrompu qui avait suivi son adoption dans une foi si différente de celle dans laquelle il avait été élevé, le jeune prêtre pouvait à peine se figurer qu'il ne faisait pas encore un songe. Il avait traversé la fatale rivière. Le passé et l'avenir n'avaient plus rien de commun. Les deux mondes, enfin ce qui avait été et ce qui devait être, se montrèrent distincts et séparés à jamais. À quelle hardie et aventureuse entreprise n'avait-il pas dévoué sa vie ? Dévoiler les mystères auxquels il avait été associé, avilir les autels qu'il avait servis, dénoncer la déesse dont il avait été le ministre, déchirer la robe qu'il portait encore. Il ne s'y dissimulait pas la haine et l'horreur qu'il inspirait aux personnes pieuses, alors même qu'il réussirait. Si le succès lui manquait, quel châtiment n'attirerait pas sur lui une offense jusqu'alors inconnue et pour laquelle aucune loi pénale même n'existait tant elle était imprévue? On chercherait sans doute dans l'arsenal de la vieille législation quelque loi cruelle tombée en désuétude pour lui faire expier son crime. Ses amis, sa sœur, sa compagne d'enfance auraient peut-être pitié de lui, mais lui rendrait-il justice? Cet acte brave et héroïque ne serait-il pas considéré par leurs yeux que le paganisme aveuglait, comme une odieuse apostasie? Il oserait tout néanmoins. Il renoncerait à toute chose de ce monde pour s'assurer l'éternité dans cet autre monde qui lui avait été si soudainement révélé. Et pendant que ses pensées assaillaient d'un côté son cœur, de l'autre son courage, son orgueil, sa vertu, se mêlant au désir de se venger des indignes supercheries auxquelles il avait participé et au dégoût que lui inspirait la fraude, conspiraient ensemble pour l'élever et le soutenir. Le conflit était dur et pénible, mais ses nouveaux sentiments triomphaient des anciens. Un puissant argument en faveur de ceux qui rompent avec la consécration des anciennes idées et des formes héréditaires peut être tiré de l'exemple victorieux de ce jeune prêtre. Si les premiers chrétiens avaient été plus soumis à la solennelle autorité des coutumes, s'ils avaient été moins démocrates dans la plus pure acception de ce mot, dont on a si souvent perverti le sens, le christianisme aurait péri dans son berceau. Comme chaque prêtre devait passer à son tour plusieurs nuits dans le temple, le service d'Apaïsides n'était pas encore terminé, et lorsqu'il se fut levé de son lit, qu'il eut revêtu comme d'habitude sa robe de ministre d'Isis et quitté sa chambre, il se trouva seul devant les autels du temple. Épuisé par ses premières émotions, il avait dormi plus tard que d'habitude, et le soleil vertical lançait déjà ses plus chauds rayons dans l'enceinte sacrée. « Salué, Apaïsides !» dit une voix dont l'aspérité naturelle se déguisait sous un ton de douceur artificieuse et déplaisante. « Tu parais tard ce matin. La déesse s'est-elle révélée à toi dans tes visions ?»« Que ne peut-elle se révéler telle qu'elle est au peuple, Calénus ? L'encens ne fumerait plus sur ses autels. » « Cela est peut-être vrai, » répondit Calénus, « mais la déesse est assez sage pour ne pas se communiquer qu'aux prêtres. Un temps pourra venir où son voile lui sera ôté malgré elle. Oh, cela n'est pas probable, elle a triomphé durant des siècles sans nombre, et ce qui a duré si longtemps succombe rarement à l'amour de la nouveauté. Mais prends-y garde, jeune prêtre, ces paroles me paraissent bien indiscrètes. « Ce n'est pas à toi de leur imposer silence, » répondit Apaïsides avec hauteur. « Voilà qui est bien vif, mais je ne veux pas me quereller avec toi. Comment, mon cher Apaïsides, l'Égyptien ne t'a-t-il pas convaincu de la nécessité de notre union à tous? Ne t'a-t-il pas convaincu qu'il est sage de tromper le peuple et de jouir de la vie? S'il ne l'a pas fait, frère, il n'est pas si grand magicien que je le présumais. » « Alors, tu as écouté ces leçons, » reprit Apaïsides avec un dédaigneux sourire. « Oui, mais j'en avais moins besoin que toi. La nature m'avait libéralement doué de l'amour, du plaisir et de l'envie d'obtenir richesse et pouvoir. Le chemin qui conduit le voptueux aux austérités de la vie est long, mais il n'y a qu'un pas des plaisirs du péché à une hypocrisie commode. Crains la vengeance de la déesse, si l'on vient à découvrir combien ce pas est court. Et toi, redoute le moment où la tombe sera ouverte et la corruption visible, répondit Apaïsides d'un air solennel. Va aller. Après avoir prononcé ces paroles, il laissa le Flamine à ses méditations. Lorsqu'il eut fait quelques pas, il retourna la tête. Calenus avait déjà disparu dans la salle d'entrée des prêtres, car l'heure du repas approchait, de ce repas appelé prandium et dont l'heure correspondait à celle du déjeuner des modernes. Le blanc et gracieux temple brillait au soleil, sur ses autels fumait l'encens et s'enlaçaient des guirlandes. Le prêtre jeta un long et triste regard sur cette scène. C'était la dernière fois qu'il la contemplait. Il reprit son chemin et se dirigea vers la demeure d'Ionée, car avant le dernier lien qui les unissait fut peut-être rompu, avant de se livrer au péril qui l'attendait le lendemain, il souhaitait de revoir encore la seule parente qui lui resta, sa plus tendre et sa première amie. Il arriva chez elle et la trouva dans le jardin avec Nydia. « C'est bien de ta part, » dit Ionée avec joie, « d'être venue me trouver. Je désirais ta présence. Combien je te sais gré de ta visite. Que tu as été maussade en ne répondant à aucune de mes lettres et en refusant de venir recevoir l'expression de ma gratitude. Ah, tu as contribué à me préserver du déshonneur. Que peut te dire ta sœur maintenant pour te remercier ?» Ma douce Ionée, tu ne me dois aucune reconnaissance, car ta cause est la mienne. Évitons ce sujet. Ne parlons plus de cet homme impie, aussi odieux à l'un qu'à l'autre. J'aurai une prochaine occasion d'apprendre au monde la nature de sa prétendue sagesse et de sa sévérité hypocrite. Asseyons-nous, ma sœur. La chaleur du soleil m'a fatigué. Asseyons-nous à l'ombre et pour un peu de temps encore, soyons l'un pour l'autre ce que nous avons été jusqu'ici. » Ils s'assirent sous un large platane, ayant autour d'eux le ciste et l'arbousier, les fontaines jaillissantes et une verte pelouse à leurs pieds. La cigale joyeuse, jadis si chère aux Athéniens, chantait gaiement dans le gazon. Le papillon, ce bel emblème de l'âme dédié à Psyché et qui a continué de fournir des images aux poètes chrétiens, riches des brillantes couleurs empruntées aux cieux de la Sicile, voltigeait sur les fleurs d'été, fleurs ailées elles-mêmes. Et dans ce lieu et devant cette scène, le frère et la sœur se trouvaient réunis pour la dernière fois sur la terre. On peut fouler encore la même place, mais le jardin n'existe plus. Les colonnes ont été brisées, la fontaine a cessé de jaillir. Le voyageur pourra chercher parmi les ruines de Pompéi la maison d'Ionée. Oh, elle est à peine visible, je ne peux pas en indiquer les restes aux touristes vulgaires. Celui qui aura plus de sensibilité que la foule la découvrira aisément. Quand il l'aura trouvé, qu'il garde comme moi le secret. » Nydia, les voyant assis ensemble, se retira à l'autre extrémité du jardin. « Ionée, ma sœur, s'écria le jeune converti, mets ta main sur mon front, elle en apaisera l'ardeur. Parle-moi aussi, car ta douce voix est comme la brise qui possède à la fois la fraîcheur et l'harmonie. Parle-moi, mais ne me bénis pas. Ne prononce aucune des formules que dans notre enfance nous considérions comme sacrées. Hélas, que puis-je te dire alors? Le langage de l'affection est tellement uni pour nous à celui du culte que les expressions deviennent froides et tristes lorsqu'on en bannit toute allusion à nos dieux. « Nos dieux ?» murmura Païsides avec un frisson. « Mais tu oublies déjà ma requête. » « Mais ne faut-il te parler que d'Isis ?»« Du démon ? Ah non, mieux vaudrait que tu fusses muette pour toujours, à moins que tu ne pusses. » Mais cessons de parler ainsi. Ne passons pas notre temps à nous disputer, ce n'est pas le moment de nous juger avec sévérité. Tu me regarderais comme un apostat, et moi je serais plein de chagrin et de honte pour ton idolâtrie. Éloignons, ma sœur, de pareils sujets et de telles pensées. En ta douce présence, le calme se répand dans mes esprits. Je cède un instant à l'oubli lorsque mon front repose ainsi sur ton sein, lorsque je sens ton tendre bras autour de moi. Je crois que nous sommes encore enfants et que le ciel nous sourit à tous deux. Oh, va! Si j'échappe à n'importe quel danger et qu'il me soit permis de te parler sur un sujet redoutable et sacré, puissais-je ne pas trouver ton oreille et ton cœur sourds à ma voix? L'espérance que j'aurai pour moi-même ne balancerait pas le désespoir que j'éprouverai pour toi. Je vois en toi, ma sœur, une ressemblance de moi-même plus belle, plus noble, plus aimable. Mais le miroir vivra-t-il toujours, et la forme sera-t-elle brisée comme l'argile du potier? Oh non, non, tu m'écouteras. Te souviens-tu des campagnes de Bailly que nous parcourions ensemble, en nous tenant par la main, cueillant les fleurs du printemps? Puissions-nous, nous tenant encore par la main, entrer dans le jardin éternel et nous couronner de l'asphodèle qui ne meurt pas? Étonnée et confuse des paroles qu'elle ne pouvait comprendre, mais émue en même temps des larmes et du ton plaintif de son frère, Ionée écoutait ses effusions d'un cœur plein et oppressé. Apaïsides était attendri lui-même au-delà de son humeur ordinaire, qui était morose et impétueuse. Car les plus nobles désirs sont d'une nature jalouse. Ils envahissent, ils absorbent l'âme et laissent souvent à leur surface une sorte d'aspérité. Ne faisant aucune attention aux petites choses qui nous entourent, nous paraissons farouches, impatients, lorsque des interruptions terrestres nous dérangent de nos rêves divins. On croit que nous sommes irritables et susceptibles. Et comme il n'y a pas de chimère plus vaine que d'espérer qu'un cœur trouvera dans un autre une sympathie complète, on ne nous rend pas justice et personne, pas même nos plus proches et nos plus chers amis, ne nous accorde même de la commisération. Quand nous sommes morts et que le repentir arrive trop tard, amis et ennemis s'étonnent en pensant qu'il y avait si peu à pardonner en nous. Je te parlerai donc de mes jeunes années, dit Ionée. Cette jeune aveugle te dira une chanson sur les jours de l'enfance. Sa voix est harmonieuse et douce, et cette chanson ne renferme aucune allusion qui te soit pénible. T'en rappellerais-tu les paroles, ma sœur ? Demanda Paécides. Je le crois, car l'air qui est simple a dû les graver dans ma mémoire. Chante donc cette chanson toi-même. Mon oreille n'est point à l'unisson de voix étrangères, et la tienne, Ionée, qui me fait souvenir du temps où nous vivions ensemble, a toujours été plus douce pour moi que les mélodies mercenaires de Lycie ou de Crète. Chante toi-même. Ionée fit signe à un esclave qui se tenait sous le portique de lui apporter son luth, et chanta, lorsqu'on le lui eut donné, sur un air tendre et simple, les vers suivants. Le regret de l'enfance. Le printemps a ses matinées pleines de pluie et de soleil. L'enfance, aux heures fortunées, n'a pas sans cesse un jour pareil. Mais l'espérance fraîche et close dort tout triste souvenir. Des nuages couleur de rose promettent un doux avenir. Jusqu'en nos dernières années, la joie encore peut refleurir. Mais nos larmes plus obstinées ont bien plus de peine à tarir. L'orage a plus de violence, l'arc-en-ciel est moins irisé. Avec les jouets de l'enfance, notre prisme, hélas, est brisé. Ionée avait choisi ce morceau ayant autant de goût que de délicatesse, bien que le motif en fût mélancolique. Car lorsque nous sommes profondément tristes, l'accent de la gaieté offre un désaccord insupportable pour nous. Le charme le plus convenable est celui qu'on emprunte à la mélancolie elle-même. Les pensées sombres qu'on ne peut égayer peuvent du moins être adoucies. Elles perdent ainsi les couleurs trop crues de la vérité et se fondent dans l'idéal. De même que la sangsue guérit un mal intérieur par une irritation extérieure, tirant à elle un venin dangereux, de même dans les plaies de l'âme, on appelle à la surface le mal qui s'enfonce trop avant, et l'on change en une douce tristesse ses intimes douleurs. Alors à Paécides, cédant à l'influence de cette voix argentine qui lui rappelait le passé et qui voilait à demi les douleurs du présent, oublia la source immédiate de ses inquiètes pensées. Il passa quelques heures à entendre chanter Ionée et à causer avec elle. Et lorsqu'il se leva pour la quitter, son esprit, doucement bercé, était devenu plus calme. « Ionée, dit-il en lui pressant la main, si tu entendais noircir et calomnier mon nom, croirais-tu au mal qu'on te dirait de moi? Mais jamais, mon frère, jamais. Mais ne crois-tu pas, d'après ta foi même, que le méchant est puni après la mort et que le bon est récompensé? Peux-tu en douter? Ne penses-tu pas alors que celui qui est réellement bon a raison de sacrifier son propre intérêt à son zèle pour la vertu? Celui qui le fait s'égale au Dieu. Et tu penses aussi que le peu de bonheur qu'il obtiendra au-delà du tombeau sera proportionné à la pureté et au courage de ses actes. On nous instruit à l'espérer. Embrasse-moi, ma sœur. Une question encore. Tu es sur le point d'épouser Glaucus. Ce mariage peut nous séparer d'une façon plus irrévocable encore. Mais je ne veux pas parler de cela. Tu vas te marier avec Glaucus. L'aimes-tu? Allons, ma sœur, réponds-moi par de franches paroles. Oui, murmura Ionée en rougissant. Ne sens-tu pas que, pour l'amour de lui, tu renoncerais à toute vanité, tu braverais le déshonneur, tu affronterais la mort? J'ai entendu dire que lorsque les femmes aiment, c'est toujours avec excès. Mon frère, je ferai tout cela pour Glaucus, et je ne croirai pas faire un sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice quand on aime, à souffrir pour celui qu'on aime. Assez. Une femme aurait cette bonne volonté pour un homme, et un homme montrerait moins de zèle pour son Dieu. Il cessa de parler. Sur sa figure animée brillait comme l'inspiration d'une vie divine. Sa poitrine se gonflait avec orgueil. Ses yeux étincelaient, et son front était empreint de la majesté d'un homme qui se propose quelque noble action. Il se retourna pour chercher une fois encore les yeux d'Ionée, empressés, attentifs, effrayés. Il l'embrassa tendrement, la pressa vivement sur son sein, et un moment après, s'éloigna de la maison. Ionée demeura longtemps à la même place, muette et sans pensée. Ses suivantes vinrent plusieurs fois lui rappeler que la journée avançait et qu'elle avait promis d'assister au banquet de Diomède. Elle s'éveilla enfin de sa rêverie et s'habilla pour le festin, non pas avec l'orgueil de la beauté, mais avec tristesse et mélancolie. La seule chose qui la réconciliait avec cette solennité, c'est qu'elle devait y rencontrer Glaucus et qu'elle pourrait lui confier toutes ses alarmes et toutes ses inquiétudes au sujet de son frère. Chapitre 3. Une réunion élégante et dîner à la mode à Pompéi. Pendant ce temps-là, Salluste et Glaucus se dirigeaient à pas lents vers la maison de Diomède. Malgré ses mœurs, Salus n'était pas dépourvu de qualités estimables. Il aurait été ami actif, citoyen utile, en un mot, un excellent homme, s'il ne s'était pas mis en tête d'être philosophe. Élevé dans les écoles où Rome, plagiaire des Grecs, écoutait avec recueillement l'écho de leur sagesse, il s'était pénétré des doctrines par lesquelles les derniers épicuriens corrompaient les simples maximes de leurs maîtres célèbres. Il s'abandonnait au plaisir et n'imaginait que le véritable sage était celui qui vivait le plus joyeusement. Cependant, il possédait beaucoup de connaissances. Il avait de l'esprit, un très bon naturel, et la franchise cordiale même de ses vices leur donnait l'air de vertu à côté de la corruption de Claudius ou de la mollesse efféminée de Lépidus. Aussi Glaucus le regardait-il comme le meilleur de ses compagnons. Salluste appréciait en retour les qualités élevées de l'Athénien. Il l'aimait presque autant qu'une murène froide ou une coupe du meilleur Falerne. Ce Diomède est un vieux compère assez vulgaire, dit Salluste, mais il a de bonnes qualités dans sa cave. Oui, de charmante dans sa fille. C'est vrai, Glaucus, mais il me semble que celles-là ne font pas actuellement une grande impression sur vous. Je crois que Claudius désire vous remplacer dans ses bonnes grâces. Mais il ne m'y oppose pas. Au banquet de sa beauté, d'ailleurs, aucun convenu n'est considéré comme une musca. Vous êtes sévère, mais tout ça n'empêche pas qu'elle a dans sa personne quelque chose de corinthien. Ils feront un couple assorti, après tout. Nous sommes en vérité bien bons, nous autres, de conserver pour compagnon un joueur et un oisif de cette espèce. Le plaisir unit ensemble de singulières gens, dit Glaucus. Il m'amuse. Oui, par ses flatteries, mais il se les fait bien payer. Il jette de la poudre d'or sur ses éloges. Vous avez souvent fait allusion à son bonheur au jeu. Croyez-vous qu'il triche réellement ? Mon cher Glaucus, un noble romain a sa dignité à conserver. Dignité qui coûte cher. Claudius se voit forcé de tromper, comme un coquin pour vivre au patricien. Ah ah, heureusement que j'ai abandonné les dés. Salluste, lorsque je serai l'époux Dioné, j'ai l'intention de racheter toutes mes folies de jeunesse. Tous deux nous sommes faits pour une meilleure conduite que celle que nous tenons. Nous sommes faits pour porter nos hommages à le plus noble temple que l'étable d'Épicure. Hélas, répondit Salluste avec une certaine mélancolie, savons-nous autre chose que ceci ? La vie est courte, tout est obscurité au-delà du tombeau. Il n'y a donc pas d'autre sagesse que celle de jouir du temps présent. Par Bacchus, je me demande parfois si nous savons bien en effet jouir de la vie comme il faudrait le faire. Oh, je suis fort modéré, reprit Salluste, et je ne demande pas l'excès. Nous sommes comme des malfaiteurs que nous enivrons de vin et de myrrhe au moment du supplice. Mais si nous n'agissions pas ainsi, l'abîme nous paraîtrait trop désagréable. J'avoue que j'étais disposé à la tristesse lorsque je me suis mis à boire avec tant d'ardeur. C'est une nouvelle vie, Glaucus. Fi, mais c'est parler en cite. Bon, le sort de Penthé menace quiconque n'en aura pas Bacchus. Eh bien, Salluste, avec tous vos défauts, vous êtes le meilleur débauché que j'ai jamais encore rencontré. Et en vérité, si j'étais en danger de la vie, je crois que vous êtes le seul homme de l'Italie qui tendrait un doigt pour me sauver. Peut-être ne pourrais-je pas si c'était vers le milieu du souper, mais le fait est que nous autres Italiens, nous sommes terriblement égoïstes. Il en est ainsi de tous les hommes qui ne sont pas libres, répondit Glaucus en soupirant. La liberté seule fait que les hommes se sacrifient les uns aux autres. La liberté doit alors être une chose bien fatigante pour un épicurien, reprit Salluste. Ah, mais nous voici rendus chez notre hôte. Comme la maison de plaisance de Diomède est une des plus grandes que l'on ait encore découverte à Pompéi, Et comme elle est construite d'après toutes les règles établies pour ces sortes de maisons par l'architecte romain, il n'est pas sans intérêt de décrire un peu de mots le plan des appartements que traversèrent nos convives. Ils entrèrent d'abord par ce même petit vestibule où nous avons été déjà présentés le vieux Médon et passèrent immédiatement sous une colonnade appelée en termes techniques péristyle. Car la plus grande différence qui existait entre les maisons de campagne et les maisons de ville consistait à placer dans les premières la même colonnade exactement à la place occupée dans les autres par l'atrium. Au centre du péristyle, on trouvait une cour ouverte qui contenait l'impluvium. De ce péristyle descendait un escalier vers les offices. Un autre passage étroit, au côté opposé, conduisait au jardin. Divers petits appartements entouraient la colonnade. Ils étaient probablement destinés aux visiteurs de la campagne. Une autre porte à gauche, en entrant, communiquait avec un petit portique triangulaire, lequel appartenait à la salle des bains. Et derrière était la garde-robe où se renfermaient les habits de fête des esclaves, et peut-être aussi ceux des maîtres. 17 siècles plus tard, on a trouvé les restes de cette ancienne élégance calcinée et tombant en poussière, mais conservée, hélas, plus longtemps encore que leur maître économe ne l'avait prévu. Retournons au péristyle et essayons maintenant d'offrir au lecteur un coup d'œil de cette série d'appartements qui s'ouvrait devant les pas de Glaucus et de son ami. Qu'on se figure donc d'abord les colonnes du portique, toutes garnies de festons et de fleurs. Les colonnes elles-mêmes peintes en rouge dans leur partie inférieure et des murs décorés de fresques variées. Derrière un rideau ouvert aux trois quarts, on découvrait le tablinum ou salon que l'on fermait à volonté par des portes vitrées qui dans ce moment étaient rentrées dans le mur. Et de l'autre côté du tablinium, il y avait de petites chambres, dont l'une était le cabinet des objets d'art. Ces appartements, aussi bien que le tablinium, communiquaient avec une longue galerie ouverte aux deux extrémités sur des terrasses. Entre les terrasses, on voyait une grande salle attenante à la partie centrale de la galerie et dans laquelle était dressée la table du banquet. Toutes ces pièces, quoiqu'à peu près au niveau de la rue, étaient situées à un étage au-dessus du jardin, et les terrasses qui succédaient à la galerie se continuaient en corridors élevés au-dessus des colonnes dont le jardin à droite et à gauche était environné. Au-dessous et de plein pied avec le jardin s'étendait l'appartement de Julia, déjà décrit. Diomède recevait ses hôtes dans la galerie que nous venons de signaler. Le marchand affichait les prétentions aux belles lettres et par suite montrait une sorte de passion pour tout ce qui était grec. Il marqua à Glaucus une attention toute particulière. « Vous verrez, mon ami, dit-il en faisant un geste de la main, que je suis ici un peu classique, un petit enfant de Cécrops. Et la salle dans laquelle nous souperons est d'un style grec. C'est un Eucus Cisirène. Noble Salluste, on m'a assuré que Rome ne possédait pas d'appartement de ce genre. Oh, répliqua Salluste, souriant à moitié. Vous autres Pompéiens, vous savez combiner ensemble la Grèce et Rome. Puissent les mets que vous allez nous servir ressembler à notre architecture. Vous verrez, mon Salluste, répondit le marchand. Nous avons du goût à Pompéi, et de l'argent aussi. Ben, ce sont des excellentes choses, reprit Salluste, mais voici la belle Julia. La plus notable différence, comme je l'ai déjà remarqué, entre les mœurs romaines et les mœurs athéniennes, c'était que chez les Romains, les femmes modestes n'assistaient que rarement, si elles y assistaient, jamais, aux banquets de ce genre. Tandis que chez les Grecs, elles en étaient l'ornement. Seulement lorsqu'elles prenaient part à ces fêtes, le repas finissait ordinairement de bonne heure. Magnifiquement vêtue d'une robe blanche, brodée de perles et de fils d'or, la superbe Julia entra donc dans l'appartement. À peine avait-elle répondu au salut de deux convives que Pansa et sa femme, Lépidus, Clodius, le sénateur romain, entrèrent en même temps. Vinrent bientôt la veuve Fulvia, puis le poète Fulvius, qui ressemblait à la veuve par le nom et par son esprit féminin, le guerrier d'Herculanum, accompagné de son ombre, se présenta ensuite d'un air martial. Enfin parurent les autres, moins éminents. Ionée était attendu. C'était la mode dans la courtoisie ancienne d'user d'une politesse flatteuse les uns envers les autres. C'était une preuve de mauvaise éducation que de s'asseoir immédiatement en entrant dans une maison. Après les salutations d'entrée, qui se faisaient habituellement comme chez nous par une cordiale poignée de main ou par un embrassement plus familier, les premières minutes s'écoulaient à examiner l'appartement, à en admirer les bronzes, les peintures, les ornements divers. Mode qui paraîtrait très impolie en Angleterre, où le suprême bon ton réside dans l'indifférence. Nous ne voudrions pas pour tout au monde exprimer notre admiration pour la maison de notre dans la crainte qu'il ne pensât que nous n'avons jamais rien vu de pareil avant d'y entrer. « Belle statue de Bacchus !» dit le sénateur. « Oh, pure bagatelle !» répliqua Diomède. « Quelle charmante peinture !» dit Fulvia. Oh, « bagatelle, bagatelle !» répliquait le propriétaire. « Magnifique candélabre !» s'écria le guerrier. « Magnifique !» murmura son ombre. « Bagatelle, bagatelle !» répétait toujours le marchand. Glaucus, pendant ce temps-là, se trouvait à côté de la belle Julia, près de l'une des fenêtres qui donnait sur la terrasse. « Est-ce une vertu athénienne, Glaucus, dit la fille du marchand, d'éviter les personnes que nous avons recherchées autrefois ?»« Oh non, belle Julia !»« Mais il me semble néanmoins que c'est une des qualités de Glaucus. »« Ah, Glaucus n'a jamais évité un ami !» dit le grec en appuyant sur le mot. Julia peut-elle être mise au rang de ses amis? Mais l'empereur lui-même serait flatté de rencontrer un ami dans un être si charmant. Vous éludez ma question, reprit l'amoureuse Julia. Mais dites-moi, est-il vrai que vous admiriez la napolitaine Ionée? Mais la beauté ne force-t-elle pas toujours à l'admiration? Grec subtil, vous ne voulez pas me comprendre, mais répondez. Julia serait-elle vraiment votre amie? Bon, si elle m'accorde cette faveur, j'en bénirai les dieux. Le jour où elle m'honorera de son amitié sera marqué en blanc. Bien, cependant, tandis que vous me parlez, votre regard est inquiet. Vous avez changé plusieurs fois de couleur. Vous vous éloignez involontairement. Vous brûlez d'aller rejoindre Ionée. Ionée entrait en ce moment, et Ionée avait en effet trahi son émotion aux yeux de sa jalouse et belle rivale. L'admiration pour une femme peut-elle donc me rendre indigne de l'amitié d'une autre? Ne donnez pas ainsi raison, Julia, aux attaques des poètes contre votre sexe. C'est juste, ou du moins j'essaierai de le penser. Un moment encore, Glaucus. Est-il vrai que vous allez épouser Ionée? Oh, si le destin le permet, c'est mon espérance la plus chère. Acceptez donc de moi, comme un gage de votre nouvelle amitié, un présent pour votre fiancée. C'est l'usage entre amis, vous le savez, d'offrir au fiancé ou à la fiancée quelque chose qui prouve notre estime et nos souhaits favorables. Julia, je ne puis refuser de votre main aucun présent d'amitié. Je recevrai le vôtre comme si la fortune me l'offrait elle-même. Alors, après la fête, lorsque les convives se seront retirés, descendez dans mon appartement et vous recevrez un don de ma main. Souvenez-vous de cela. ajouta-t-elle en rejoignant la femme de Pansa et en laissant Glaucus aller à la rencontre d'Ionée. La veuve Fulvia et l'épouse de Pansa étaient engagées dans une haute et grave discussion. Oh, Fulvia, je vous assure que les dernières nouvelles de Rome nous apprennent que la mode de faire friser les cheveux est déjà passée. On les porte seulement arrangés en forme de tour, comme ceux de Julia, ou bien disposés à la façon galérienne, comme un casque, ainsi que vous pouvez voir les miens. Je vous atteste que Vespus était le héros d'Herculanum, les aime beaucoup ainsi. Et personne ne porte les cheveux à la grecque comme cette napolitaine? Quoi, séparée sur le front avec un nœud derrière? Oh non! Oh, comme cela est ridicule! On dirait une statue de Diane. Cependant, cette Ionée est belle, oui. Oui, les hommes le disent, mais elle est riche aussi. Elle va épouser l'Athénien. Je leur souhaite du bonheur. Il ne sera pas longtemps fidèle, je pense. Ces étrangers sont tous sans foi. Julia, dit Fulvia à la fille du marchand en s'approchant d'eux, avez-vous vu le nouveau tigre? Non. Mais comment toutes les dames sont allées le voir? Il est si beau. J'espère qu'on trouvera quelques criminels ou tout autre combattant pour lui et pour le lion, répondit Julia. Votre mari, continua-t-elle en se tournant vers la femme de Pansa, n'est pas aussi actif qu'il devrait l'être dans cette affaire. Oh, les lois, en vérité, sont trop indulgentes, reprit la dame au casque. Il y a trop peu de crimes pour lesquels on réserve le supplice des arènes. Aussi les gladiateurs deviennent des efféminés. Les plus audacieux bestiaires déclarent qu'ils veulent bien combattre un sanglier ou un taureau. Mais quand il s'agit de lions ou de tigres, ils se font prier. Leur jeu leur paraît trop dangereux. Ils sont dignes de porter des mitres, reprit Julia avec dédain. Oh, avez-vous vu la nouvelle maison de Fulvius, de notre cher poète? Dit la femme de Pansa. Non, est-elle belle? Très belle et du meilleur goût. Mais on dit, ma chère, qu'il a chez lui des peintures si peu bienséantes qu'il ne peut les montrer aux femmes. Cela n'est pas de bonne compagnie. Oh, tous ces poètes sont bizarres, dit la veuve. Cependant, c'est un homme agréable. Quels jolis vers il compose! Nous faisons de grands progrès en poésie. Il est impossible de lire à présent les vieux auteurs. Je proclame que je suis de votre opinion, répondit la dame au casque. Il y a bien plus de force et d'énergie dans la nouvelle école. Le guerrier s'approcha des dames en sautillant. Lorsque je vois de tels visages, dit-il, je me réconcilie avec la paix. Oh, vous êtes trop héros, vous êtes tous des flatteurs, se hâta de reprendre Fulvia, afin de s'approprier le compliment. Par cette chaîne que j'ai reçue de la main de l'empereur lui-même, répliqua le guerrier, en jouant avec une petite chaîne qui entourait son cou comme un collier, tandis que celle qui portait les personnes pacifiques descendait sur la poitrine. Par cette chaîne, vous me faites tort. Je suis franc comme un soldat doit l'être. Comment trouvez-vous les dames de Pompéi en général? Demanda Julia. Parvenues, excessivement belles. Elles me favorisent un peu, c'est vrai, et peut-être leur beauté double-t-elle leur charme à mes yeux. Mais nous aimons les guerriers, dit la femme de Pansa. Je le vois bien par Hercule. Il est même désagréable d'être trop célèbre dans ces villes-ci. Un Herculanum, on monte sur le toit de mon atrium pour tâcher de m'apercevoir dans le compluvium. L'admiration des citoyens est agréable d'abord, puis elle finit par être fort ennuyeuse. C'est bien vrai, ô Vespus, s'écria le poète, se joignant au groupe. Je l'ai éprouvé moi-même. Vous, dit le formidable guerrier, en regardant avec un indicible mépris la petite taille du poète. Dans quelle légion avez-vous servi? Mais vous pourrez voir mes trophées. Mais j'ai du vice dans le forum lui-même, répondit le poète en jetant un regard significatif aux femmes. J'ai été au nombre des camarades de tente des contubernales du grand Matua lui-même. Bon, je ne connais aucun général de Mantoue, dit le guerrier gravement. Quelle campagne avez-vous faite? Celle de l'Hélicon. Bon, je n'en ai jamais entendu parler. C'est pas étonnant, Vespuce, il plaisante. Il plaisante, mais par marche, suis-je un homme avec lequel on plaisante. Mais lui-même était amoureux de la mer des Ris, dit le poète un peu alarmé. Sache donc, ô Vespuce, que je suis le poète Fulvius. C'est moi qui rends les guerriers immortels. Que les dieux nous en préservent, dit tout bas Salluste à Julia. Si Vespuce devenait immortel, quel modèle de Sansaron, soldat fanfaron, serait livré à la postérité? Le soldat paraissait quelque peu embarrassé lorsque, à sa grande satisfaction, non moins qu'à celle des autres, le signal du banquet fut donné. Nous avons déjà vu chez Glaucus comment se donnait un grand repas à Pompéi. Nous épargnerons au lecteur la répétition du détail des services et de la façon dont on les introduisit. Diomède, qui était assez cérémonieux, avait chargé un nomenclator d'indiquer à sa place à chaque convive. Le lecteur saura qu'il y avait trois tables, une au centre et une à chaque aile. C'était seulement du côté extérieur que les lits étaient dressés pour les convives. L'espace intérieur était laissé libre pour la plus grande communauté des esclaves chargés du service. À l'un des coins de l'aile était placée Julia, comme reine de la fête, à l'autre, près d'elle, Diomède. À chaque extrémité de la table du centre, aux places d'honneur, on voyait l'édile et le sénateur romain. Les autres convives étaient rangés ainsi. Les plus jeunes, hommes et femmes, auprès les uns des autres, et les personnes âgées, assorties de la même façon, disposition assez agréable qui n'avait que l'inconvénient d'afficher quelques personnes qui auraient voulu passer pour plus jeunes que leur âge. Le fauteuil d'Ionée était près du lit de Glaucus. Les sièges étaient incrustés d'écailles de tortue et rembourrés de coussins en plumes ornés de riches broderies. Des images des dieux, en bronze, en argent, en ivoire, décoraient les plateaux comme le font nos modernes surtout. On pense bien que la salière sacrée et les lards familiers n'étaient pas oubliés. Un dais magnifique s'étendait au-dessus de la table et des sièges. À chaque coin de la table s'élevaient de hauts candélabres, car quoi qu'il fît grand jour, la chambre avait été plongée dans les ténèbres. Des trépieds placés de divers côtés distillaient des parfums de myrrhe et d'encens. Et sur l'abacus ou buffet étaient rangés de grands vases et autres ornements d'argent, avec la même ostentation, mais avec plus de goût que dans nos fêtes modernes. On faisait des libations aux dieux en commençant le repas, de même que nous faisons des actions de grâce. Et Vesta, souveraine des dieux domestiques, recevait ordinairement la première, l'hommage des convives. Cette cérémonie achevée, les esclaves répandaient des fleurs sur les lits et sur le plancher et couronnaient chaque convive de guirlandes de roses entremêlées de rubans et attaché avec de l'écorce de tilleul. Le lierre et l'améthyste s'y joignaient également. On leur supposait le don d'arrêter les effets du vin. Les couronnes des femmes en étaient acceptées, car il n'était pas d'usage qu'elles bussent du vin en public. C'est alors que le président Diomède jugea convenable d'ériger un Basilius, ou roi du festin, important office, quelquefois demandé au sort, quelquefois choisis au gré du maître de la maison. Diomède n'était pas peu embarrassé de cette élection. Le sénateur valétudinaire était trop grave et trop infirme pour l'accomplissement de ce devoir. L'édile pensa qu'on venait assez bien à cette charge, mais comme il était d'un rang inférieur à celui du sénateur, c'était faire injure à celui-ci. Pendant qu'il délibérait sur le mérite de l'un et de l'autre, il surprit le joyeux regard de Salluste, et par une soudaine inspiration éleva l'aimable épicurien au rang de roi ou arbiter bibendi. Salluste accepta cet honneur avec une modestie charmante. « Je serai, dit-il à roi, plein de clémence pour ceux qui boiront sans se faire prier, mais un minos inexorable pour les récalcitrants. Attention !» Les esclaves firent d'abord le tour de la table avec des bassins d'eau parfumée, et après cette ablution, le festin commença. La table gémissait déjà sous le poids du premier service. La conversation, d'abord vague et particulière, permit à Ionée et à Glaucus de se livrer à ces doux échanges de paroles à voix basse qui valent toute l'éloquence du monde. Julia les surveillait avec des yeux pleins de flammes. « Dans peu de temps, je serai à sa place, » pensait-elle en regardant Ionée. Mais Clodius, qui était assis au centre de la table, de manière à bien observer la figure de Julia, guettait son dépit avec l'intention d'en profiter. Il lui adressa de loin des phrases d'une exquise galanterie, et comme il était de haute naissance et fort bien de sa personne, Julien, chez qui l'amour ne faisait pas faire la vanité, ne parut pas insensible à ses avances. Les esclaves, pendant ce temps-là, étaient constamment tenus en haleine par le vigilant Salluste, qui remplaçait une coupe vide par une coupe pleine, avec une célérité telle qu'on eût cru qu'il voulait épuiser les vastes caves de Diomède, dont le lecteur peut se faire aujourd'hui encore une idée en explorant sa maison. Le riche marchand commençait à se repentir de son choix en voyant percer et vider renfort sur renfort. Des esclaves, tous jeunes, les plus jeunes pourtant âgés d'une dizaine d'années, ceux-là versaient le vin, les autres, ayant environ 50 plus, versaient l'eau. Les esclaves, disons-nous, rivalisaient de zèle avec Salluste, et la physionomie de Diomède exprimait déjà son mécontentement de voir avec quelle complaisance il secondait les commandements du roi de la fête. « Pardonnez-nous, noble sénateur, » dit Salluste, « je vous vois fléchir, votre bordure de pourpre ne vous sauvera pas, allez, buvez !»« Par les dieux, » répondit le sénateur en toussant, « mes poumons sont déjà en feu. Vous allez avec une telle promptitude que Phaéton ne vous aurait pas suivi. » « Je suis infirme, aimable Salluste, épargnez-moi. »« Non, 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 par Vesta, je suis un monarque impartial, buvez !» Le pauvre sénateur, de par les lois de la table, fut forcé d'obéir. Hélas, chaque coup ne faisait que le rapprocher davantage des bords du Styx. « Doucement, doucement, mon roi, » murmura Diomède, « nous commençons déjà. » « Oh, trahison !» interrompit Salluste. « Il n'y a point ici d'austère Brutus, que personne ne s'oppose aux arrêts de la royauté. Mais nous avons des femmes. L'amour aime le buveur. Ariane n'a-t-elle pas adoré Bacchus ?» La fête continua. Les convives devinrent de plus en plus loquaces et bruyants. Le dessert ou le dernier service était déjà sur la table, et des esclaves apportaient de l'eau avec de la myrrhe et de l'encens pour la dernière ablution. En même temps, une petite table circulaire, qui avait été placée dans l'espace laissé libre, s'ouvrit tout à coup, comme par magie, et répandit une pluie odoriférante sur la table et sur les hôtes. Lorsqu'elle eut cessé, le dais qui était au-dessus de leur tête fut enlevé, et ils virent qu'une corde avait été tendue en travers du plafond. Un de ces habiles danseurs, si célèbres à Pompéi, et dont les descendants font encore la joie d'Astley et de Vauxhall, commençait ses évolutions aériennes. Cette apparition qu'une corde seule séparait du péricrâne des convives, et qui, dans ses joyeux ébats, semblait menacer à chaque instant d'une descente prochaine leur région cérébrale, serait probablement de nos jours considérée avec terreur par la société de Mayfair. Mais nos amateurs pompéiens paraissaient contempler ce spectacle avec autant de plaisir que de curiosité. Ils applaudissaient d'autant plus vivement que le danseur s'approchait plus près de la tête de l'un d'eux. Il fit au sénateur l'honneur de se laisser tomber et de ressaisir la corde au moment où tout le monde croyait que le crâne du Romain était fracturé, comme celui du poète qu'un aigle prit pour une tortue. Enfin, au grand contentement d'Ionée, qui ne prenait pas beaucoup plaisir à ce divertissement, le danseur de corde s'arrêta tout à coup, pendant qu'un accord de musique se faisait entendre au dehors. Il dansa de nouveau avec plus d'agilité. L'air changea, le danseur fit une nouvelle pause, mais rien ne semblait pouvoir dissiper le charme dont on le supposait possédé. Il représentait un homme qu'une maladie étrange force à danser et qu'un certain air seul était capable de guérir. Enfin, le musicien parut prendre le véritable ton. Le danseur bondit, s'élança de la corde à terre et soudain, on ne le vit plus. Après ce divertissement, un autre. Les musiciens, placés sur la terrasse, jouèrent un air doux et tendre, auquel se joignaient les paroles suivantes qui furent à peine entendues, non moins à cause de la distance que parce qu'elles furent dites presque à voix basse. La musique des festins ne doit pas être bruyante. Notre musique envoie un doux murmure dans cette salle où Psyllas fuit le jour. Le jeune dieu, dans une grotte obscure, apprit lui-même à Pan ce chant d'amour. Harpe au son sacré, fais entendre pour Aphrodite un air divin, doux comme les gouttes de vin qu'un joyeux banquet voit répandre. Que la trompette, au vif et brillant son, des cœurs guerriers aille exciter les flammes, dans les banquets notre douce chanson des amoureux qui a caressé les armes. Les fleurs couronnent leurs cheveux, glisse-toi, musique charmante, pure comme une voix d'amante, murmurant ses premiers aveux. À la fin de cette chanson, Ionée rougit plus fort qu'auparavant, et Glaucus avait eu l'adresse de presser sa main sous la table. « C'est un agréable morceau, » dit Fulvius d'un ton protecteur. « Ah, mais si vous vouliez nous faire la faveur de chanter vous-même, » dit la femme de Pansa. « Souhaitez-vous que Fulvius chante ?» demanda le roi du festin, qui venait d'adorner à l'assemblée de boire à la santé du sénateur romain en vidant une coupe pour chaque lettre de son nom. « Pouvez-vous faire cette question ?» répondit la matrone en jetant un gracieux regard au poète. Salluste fit claquer ses doigts, dit un mot à l'esclave qui exécutait ses ordres. Celui-ci disparut et revint un moment après, tenant d'une main une petite harpe et de l'autre une branche de myrte. L'esclave s'approcha du poète et lui présenta la harpe en s'inclinant aussi humblement que possible. « Hélas, je ne sais pas jouer de la harpe, » dit le poète. « Alors, il faut chanter au myrte. C'est une mode grecque. »« Diomède aime les Grecs, j'aime les Grecs, vous aimez les Grecs, et entre nous et moi, ce n'est pas la seule chose que nous aurons prise d'eux. Quoi qu'il en soit, j'introduis cet usage. Je suis le roi, vous êtes le sujet. Chantez, sujet, chantez !» Le poète, avec un sourire modeste, prit le myrte des mains de l'esclave et, après un léger prélude, chanta le morceau suivant d'une voix agréable et bien timbrée. Le couronnement des amours. Les amours, un jour de fête, gambadaient joyeusement, chacun faisait à sa tête, tout d'abord parut charmant. Bientôt survint la querelle. « Se quereller, fille, dit-elle, ma lesbia, nous aussi avons eu querelle ici. Jusqu'alors, chaque amour, libre à son gré, poussait ses jours. Mais de ce juste équilibre, homme, Dieu, sortent toujours. Faisons un roi, dit la bande, que l'un d'entre nous commande. Un baiser, donne-le-moi, pour mieux élire ce roi. Ils trouvèrent un beau casque, c'était le casque d'Arès. Soudain la troupe fantasque d'un roi croit y voir les traits. Ils le mirent sur un trône. Pour moi, ce n'est pas, mignonne, celui que j'aurais voulu. Ton voile aurait mieux valu. Le casque avait fort à faire au milieu de tels sujets. Désespérant de leur plaire, il forma d'autres projets. Il dit, prenons une reine. Tu le vois, mon inhumaine, peut-on vivre sans aimer? Crois-moi, laisse-toi charmer. Une colombe jalouse les surveillait dans un coin. Le roi la prit pour épouse. Un cri retentit au loin. « Vive, vive la colombe, à ses pieds que chacun tombe. Toi, qu'on me voit tant chérir, que n'ai-je un trône à t'offrir ?» Les amours, se croyant maîtres, allaient sonner le clairon. Mais elle, à ses petits traîtres, fit voir un air de Néron, ayant dans l'Olympe même appris le pouvoir suprême. Je ne sais que trop par toi, des reines, quelle est la loi. Cette chanson, qui s'accordait à merveille avec la brillante et vive imagination des Pompéiens, fut couverte d'applaudissements, et la veuve insista pour qu'on couronnât le poète de la branche de myrte à laquelle il avait adressé ses chants. On en fit aisément une guirlande, et l'immortel Fulvius la reçut au milieu des battements de mains et des cris d'Io, triomphe! La harpe circula ensuite autour de la table pour ceux qui savaient en jouer. Une nouvelle branche de myrte passa de main en main, en s'arrêtant à ceux qui étaient priés de chanter. Le soleil commençait à décliner, bien que les convives qui étaient à table depuis plusieurs heures ne s'en aperçussent pas dans la salle du festin, fermée au jour. Le sénateur fatigué et le guerrier qui devait retourner à Herculanum se levèrent et donnèrent le signal du départ général. « Attendez un instant, mes amis, dit Diomède, ou, si vous voulez vous retirer si tôt, que cela ne soit pas du moins avant notre dernier divertissement. » Il dit et fit signe à l'un des serviteurs de s'approcher. Il lui glissa quelques mots dans l'oreille. L'esclave sortit et revint bientôt avec un petit bassin contenant plusieurs tablettes soigneusement cachetées et toutes semblables en apparence. Chacun des autres devait en acheter une et la payer au prix nominal de la plus petite pièce d'argent. L'agrément de cette loterie, divertissement favori d'Auguste qu'il avait introduit à Rome, consistait dans l'inégalité et quelquefois dans l'incongruité des prix dont la nature et le montant se trouvaient désignés dans l'intérieur des tablettes. Par exemple, le poète, assez mécontent, tira un de ses poèmes. Jamais docteur n'avala moins volontiers une de ses pilules. Le guerrier eut pour l'eau un étui avec des passe-lacets, ce qui donna lieu à plusieurs bons mots d'une grande nouveauté sur Hercule et sur son fuseau. La veuve Fulvie gagna une large coupe. Julia, une agrafe de manteau d'homme. Lépidus, une boîte à mouches pour dames. Le lot le mieux approprié échut au joueur Claudius, qui rougit de colère en recevant des pépipés. La gaieté que la distribution de ces divers lots avait provoquée fut assombrie par un accident qu'on considéra comme de fâcheux augure. Glaucus avait obtenu du sort le lot le plus heureux, une petite statue de marbre représentant la fortune d'un travail grec des plus exquis. L'esclave qui la lui apportait la laissa tomber et elle se brisa en mille morceaux. Un frisson courut dans l'assemblée et chaque voix s'éleva spontanément pour prier les dieux de détourner ce présage. Glaucus seul, bien que superstitieux comme les autres, montra beaucoup de fermeté. Douce napolitaine, dit-il en se tournant vers Ioné, qui avait pâli à la vue de la statue brisée, j'accepte le présage. Il signifie que la fortune, en te donnant à moi, ne peut donner rien de plus. Elle brise son image pour ne me laisser que la tienne. Afin de dissiper l'impression que cet incident avait occasionné dans l'assemblée, et qui, attendu le rang des convives, pourrait nous paraître extrêmement superstitieuse, si de nos jours encore nous ne vivions pas dans quelque partie de campagne, une dame quittait avec une humeur voisine de l'hypocondrie un salon où se sont trouvées 13 personnes. Salluste couvrit sa coupe de fleurs et porta une santé à l'amphitryon. Cette santé fut suivie d'une autre pour l'empereur, et enfin d'une dernière en l'honneur de Mercure, messager des songes agréables. Une libation termina le banquet et la compagnie se sépara. On usait assez rarement de chars et de litières à Pompéi, tant à cause de l'étroitesse des rues que de la petitesse de la ville. Plusieurs des convives reprirent leurs sandales qu'ils avaient laissées à la porte de la salle du banquet et, s'enveloppant de leurs manteaux, se retirèrent à pied, accompagnés de leurs esclaves. Glaucus, après avoir vu partir Ioné, se dirigea vers l'escalier qui descendait à la chambre de Julia. Une esclave le conduisit à cet appartement, où il trouva la fille du marchand déjà assise. « Glaucus, lui dit-elle en baissant les yeux, je vois que vous aimez réellement Ioné. Elle est bien belle, en effet. » « Julia est assez charmante elle-même pour être généreuse, » répliqua le grec. « Oui, j'aime Ioné. Parmi les jeunes adorateurs qui se pressent autour de vous, puissiez-vous en avoir un aussi sincère ?»« Je prie les dieux de me l'accorder. Tenez, Glaucus, voici des perles que je destine à votre fiancée. Veuille Junon lui donner assez de santé pour les porter longtemps. » En prononçant ces mots, elle remit dans la main de Glaucus une cassette qui contenait un rang de perles assez grosses et d'une certaine valeur. C'était un usage assez général que les personnes qui allaient se marier reçussent de pareils cadeaux pour que Glaucus ne se fît aucun scrupule d'accepter ce collier. Le courtois et fier Athénien se proposait d'ailleurs de rendre à Julia quelques présents qui aurait trois fois la valeur du sien. Elle l'arrêta au milieu de ses remerciements, et versant un peu de vin dans une petite coupe, ajouta en souriant, « Vous avez porté bien des santés avec mon père, portez-en une avec moi, à la santé et au bonheur de votre épouse. » Elle toucha la coupe du bout des lèvres et la présenta à Glaucus. La coutume voulait qu'il la vida jusqu'à la dernière goutte. Il le fit. Julia, qui ignorait la supercherie de Nydia, suivait ses mouvements d'un regard inquiet et plein de feu. Quoique la magicienne l'eût prévenue que l'effet pourrait bien ne pas être immédiat, elle pensait que ses charmes doubleraient au moins la force du sortilège. Son attente fut trompée. Glaucus remit froidement la coupe sur la table et continua de s'entretenir avec elle d'un ton gracieux, sans témoigner aucune émotion nouvelle. Mais elle le retint aussi longtemps qu'elle put, mais les manières de Glaucus ne changèrent pas à son égard. « Demain, se dit-elle en laissant éclater sa joie, malgré son désappointement, demain, hélas, pour Glaucus !» Oh oui, hélas pour lui, bien sûr.